La bûche de Noël. La bûche de Noël réunissait autrefois tous les habitants de la maison, tous les hôtes du logis, parents et domestiques, autour du foyer familial. La bénédiction de la bûche, avec les cérémonies traditionnelles dont elle se parait, n'était que la bénédiction du feu au moment où les rigueurs de la saison le rendent plus utile que jamais. Cet usage existait surtout dans les pays du Nord. C'était la fête du feu, le licht des anciens germains, le Yule log, le feu de Yule des forêts de Widdick, auquel les premiers chrétiens ont substitué cette fête de Sainte Luce, dont le nom est inscrit le 13 décembre au calendrier, rappelle encore la lumière. Il est tout naturel qu'on mette en honneur au 25 décembre, au cœur de l'hiver, le morceau de bois sec et résineux qui promet le chaud rayonnement aux membres raidis sous la bise. Mais souvent cette coutume était un impôt payé en nature au seigneur par son vassal. À la Noël, on apportait du bois, à Pâques des œufs ou des agneaux, à l'Assomption du blé, à la Toussaint du vin ou de l'huile. Il arrivait aussi quelquefois que les pauvres gens, ne pouvant se procurer des bûches convenables pour la veillée de Noël, se les faisaient donner. Beaucoup de religieux et de paysans, dit Léopold Bellil, recevaient pour leur feu des fêtes de fin Noël un arbre ou une grosse bûche nommée tréfouet. Le tréfeu, le tréfouet, que l'on retrouve sous le même nom en Normandie, en Lorraine, en Bourgogne, en Berry, etc., c'est, nous apprend le commentaire du dictionnaire de Jean de Garlande, la grosse bûche qui devait, suivant la tradition, durer pendant les 3 jours de fête. De là, du reste, son nom tréfeu, en latin tres foci, 3 feux. Partout, même dans les plus humbles chaumières, on veillait autour de larges foyers où flambait la souche de hêtre ou de chêne, avec ses bosses et ses creux, avec ses lierres et ses mousses. La porte restait grande ouverte aux pauvres gens qui venaient demander un gîte pour la nuit. On leur versait en abondance le vin, la bière ou le cidre, suivant les contrées, et une place leur était accordée à la table de famille. On attendait ainsi la messe de minuit. Qu'on se représente les immenses cheminées d'autrefois. Sous leur manteau pouvait s'abriter une famille tout entière, parents, enfants, serviteurs, sans compter les chiens fidèles et les chats frileux. Une bonne vieille grand-mère contait les histoires qu'elle interrompait seulement pour frapper la bûche avec sa pelle à feu et en faire jaillir le plus possible d'étincelles en disant « Bonne année, bonne récolte, autant de gerbes et de gerbillons !» La bûche de Noël était un usage très répandu dans presque toutes les provinces de notre vieille France. Voici, d'après M. Cornandet, bibliothécaire de la ville de Chaumont, le cérémonial que l'on suivait dans la plupart des familles. Dès que la dernière heure du jour s'était fondue dans l'ombre de la nuit, tous les chrétiens avaient grand soin d'éteindre leur foyer, puis allaient en foule allumer des brandons à la lampe qui brûlait dans l'église en l'honneur de Jésus. Un prêtre bénissait les brandons que l'on allait promener dans les champs. Ces brandons portaient le seul feu qui régnait dans le village. C'était le feu béni et régénéré qui devait jeter de jeunes étincelles sur l'astre ranimé. Cependant, le père de famille, accompagné de ses enfants et de ses serviteurs, allait à l'endroit du logis où, l'année précédente, ils avaient mis en réserve les restes de la bûche. Ils apportaient solennellement ses tisons. L'aïeul les déposait dans le foyer et tout le monde, se mettant à genoux, récitait le pater, tandis que 2 forts valets de ferme ou 2 garçons apportaient la bûche nouvelle. Cette bûche était toujours la plus grosse que l'on pût trouver. C'était la plus grosse partie du tronc de l'arbre, ou même la souche. On appelait cela la coque. Mais le gâteau allongé en forme de bûche que l'on donne aux enfants le jour de Noël porte encore dans certains pays le nom de coquille ou petite bûche, en patois le cogneux de Noël. On y mettait le feu et les petits enfants les priaient dans un coin de la chambre, la face tournée contre le mur, afin, leur disait-on, que la souche leur fit des présents. Et tandis qu'ils priaient l'enfant Jésus de leur accorder la sagesse, on mettait au bout de la bûche des fruits confits, des noix et des bonbons. À 11 heures, tous les plaisirs cessaient, tous les jeux cessaient. Dès les premiers tintements de la cloche, on se mettait en devoir d'aller à la messe. On s'y rendait en longue file, avec des torches à la main. Avant et après la messe, tous les assistants chantaient des Noëls et on revenait au logis se chauffer à la bûche et faire le réveillon dans un joyeux repas. Un vieil auteur, Marchetti, expose le sens religieux de ces pratiques. La bûche de Noël, dit-il, représente Jésus-Christ, qui s'est comparé lui-même au bois vert. Dès lors, continue notre auteur, l'iniquité étant appelée dans le 4e livre des Proverbes « le vin et la boisson des impies », il semble que le vin répandu par le chef de famille sur cette bûche signifiait la multitude de nos iniquités que le Père éternel a répandues sur son Fils dans le mystère de l'incarnation, pour être consumés avec lui dans la chancrité dont il a brûlé durant le cours de sa vie mortelle. Nous allons raconter ce que la bûche de Noël offrait de particulier en Berry, en Normandie, en Provence et en Bretagne. La bûche de Noël en Berry. En Berry, elle s'appelle Cosse de Nau. Cosse, codex, souche, et quelquefois tréfouet, truffiau, truffaut, trois feux. Nau signifie Noël. Ce mot était employé par nos pères dans ce sens. Au Seine, Nau chanterait, car le jour béni est fériau, Nau, 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 car le jour est fériau. Les forces réunies de plusieurs hommes sont nécessaires pour apporter et mettre en place la cosse de Nau, car c'est ordinairement un énorme tronc d'arbre destiné à alimenter la cheminée pendant les 3 jours que dure la fête de Noël. À l'époque de la féodalité, plus d'un fief a été donné à la charge par l'investi de porter tous les ans la cosse de Nau au foyer du suzerain. La cosse de Nau doit, autant que possible, provenir d'un chêne vierge de tout égagage et qui aurait été abattu à minuit. On le dépose dans l'âtre au moment où sonne la messe nocturne et le chef de famille, après l'avoir aspergé d'eau bénite, y met le feu. C'est sur les deux extrémités de la bûche ainsi consacrée que les mères et surtout les aïeules se plaisent à disposer les fruits, les gâteaux, les jouets de toute espèce auxquels les enfants feront à leur réveil un si joyeux accueil. Comme on a fait croire à ceux qui pleuraient pour aller à la messe de minuit qu'on les mènerait à la messe du Cossin blanc, c'est-à-dire qu'on les mettrait au lit, on ne manque jamais le lendemain matin de leur dire que tandis qu'ils assistaient à cette messe mystérieuse, toutes ces belles et bonnes choses ont été déposées là, à leur intention, par le petit Nolet, le petit Jésus, Nolet, Noëlet, enfant de Noël. On conserve ces débris de la cosse de Nau d'une année à l'autre. Ils sont recueillis et mis en réserve sous le lit du maître de la maison. Toutes les fois que le tonnerre se fait entendre, on en prend un morceau que l'on jette dans la cheminée. Et cela est suffisant pour protéger la famille contre le feu du temps, c'est-à-dire contre la foudre. Dans quelques vieilles maisons de notre mairie, je cherchais à m'expliquer pourquoi L'un des deux grands chenets en fer forgé était d'une seule pièce, tandis que l'autre se démontait en deux pièces par le simple emboîtement de la branche verticale sur la branche horizontale et formait de cette manière un simple tréteau. Une octogénaire m'en a donné l'explication suivante. Dans mon jeune temps, la veille de Noël, on choisissait pour le tréfeu le tronc d'un arbre assez gros pour qu'on fût obligé de le faire traîner par un cheval, et les chenets étaient ainsi faits pour pouvoir le hisser plus facilement. On posait l'une des extrémités sur le grand chenet et l'on faisait glisser latéralement l'autre extrémité sur le chenet démonté à l'aide de leviers, car cette bûche atteignait très souvent 2 ou 3 mètres de long sur 1 mètre de circonférence. On se servait le plus souvent de trognards que l'on rencontre encore beaucoup dans nos haies. Le bois fendu était rigoureusement exclu. La longueur de ces bûches explique la forme de ces cheminées géantes d'aujourd'hui. Dans l'Orléanais, province voisine du Bercy, écrivait, existaient à peu près les mêmes usages. La ménagère plaçait dans le foyer, au milieu d'un épais lit de cendres et enguirlandé de branches de bruyère ou de genièvre, la plus forte souche du bûcher. C'était ordinairement une énorme culée de chêne. Dans la Beauce et le Val-Orléanais, rive gauche de la Loire, cette bûche se nomme, selon les localités, tréfois, trifoué ou trifouillot. Le moment de déposer dans l'âtre nettoyé avec soin la bûche traditionnelle variait selon les pays. Ici, on la plaçait au premier coup de la cloche annonçant l'office de la nuit. Là, on attendait l'instant où la cloche sonnait la voix Dieu, c'est-à-dire l'élévation de la messe de minuit. C'était le grand-père, ou quelquefois le plus jeune enfant, qui, après l'avoir aspergé d'eau bénite, y mettait le feu en se signant et en prononçant à haute voix « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. » Et le tréfouet devait brûler, sans flamme, l'espace de 3 jours, afin d'entretenir une constante et douce chaleur dans la chambre où se réunissaient avant et après les offices, mais principalement avant et après la messe de minuit, tous les membres de la famille. Cependant, la bûche de Noël se consumait lentement, et les fêtes terminées, on recueillait les restes du tréfouet et on les conservait d'une année à l'autre. La bûche de Noël en Normandie. Voici en quels termes Marchand J. 1780-1828 parle de cet usage en Normandie. Le père de famille, accompagné de ses fils et de ses serviteurs, va à l'endroit du logis où l'année précédente, à la même époque, ils avaient mis en réserve les restes de la bûche de Noël. Ils rapportent solennellement cet ison qui, dans leur temps, avait jeté de si belles flammes à l'encontre des faces réjouies des convives. L'aïeul les pose dans ce foyer qu'ils ont connu et tout le monde se met à genoux en récitant le pater. 2 forts valets de ferme apportent lentement la bûche nouvelle qui prend date comme dans une dynastie. On dit la bûche première, la bûche deuxième, la 20e, la 30e, ce qui signifie que le père de famille a déjà présidé 1 fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois semblable cérémonie. La bûche nouvelle est toujours la plus grosse que le bûcheron puisse trouver dans la forêt, c'est la plus forte partie du tronc de l'arbre où, le plus souvent, c'est la masse de ses énormes racines qu'on appelle la souche ou la coque de Noël. À l'instant où l'on y met le feu, les petits-enfants vont prier dans un coin de l'appartement afin, leur dit-on, que la souche leur fasse des présents. Et tandis qu'ils prient, on met à chaque bout de cette souche des paquets d'épices, de dragées, de fruits confits. Qu'on juge de l'empressement et de la joie des enfants à venir recevoir de pareils présents. De nos jours, l'usage de la bûche de Noël tend à disparaître des pays normands. Longtemps, les pauvres gens des campagnes, en attendant l'heure de la messe de minuit, ont dû se réchauffer autour de l'énorme bûche éclairant de sa lumière flamboyante la compagnie réunie sous la hotte de la cheminée. C'est assis devant son brasier qu'on restait jusqu'au moment où, à travers champs, on allait gagner la pauvre église où devait se célébrer la messe des bergers. C'est devant l'âtre rougeoyant qu'on se racontait toutes ces légendes merveilleuses de Noël, toutes ces traditions qui, comptées par la voix tremblante des aïeuls, se sont transmises jusqu'à nos jours. Et les pierres tournantes, comme celles de Gerbonville, de Saint-Arnoux, de Malmain, qui tournent 7 fois pendant la nuit de Noël, et les trésors qui ne se découvrent que lorsque l'on sonne le premier coup de la messe nocturne, et les feux follets qui dansent pendant la nuit sur les tombes du cimetière et bien d'autres contes fantastiques. La bûche de Noël en Provence. Les Provençaux apportaient au foyer le joyeux cariguiller, ou vieux tronc d'olivier choisi pour brûler toute la nuit. Ils avançaient solennellement, en chantant les paroles suivantes: Cachofio, cache le feu. Butofio, allume le feu. Dieu nous allègre, Dieu nous comble d'allégresse. Le plus ancien de la famille arrosait alors ce bois, soit de lait, soit de miel, en souvenir de l'Éden, dont l'avènement de Jésus est venu réparer la perte, soit de vin, en souvenir de la vigne cultivée par Noé, lors de la première rénovation du monde. Le plus jeune enfant de la maison prononçait à genoux ces paroles que son père lui avait apprises. « Au feu, réchauffe pendant l'hiver les pieds frileux des petits orphelins et des vieillards infirmes. Répands ta clarté et ta chaleur chez les pauvres et ne dévore jamais les tables du laboureur ni le bateau du marin. » Cette scène si touchante de la bûche de Noël occupe toute une salle du musée d'Arles. En voici la description. 9 mannequins de grandeur naturelle sont groupés autour de la cheminée dans laquelle flambe la bûche de Noël. La première personne de gauche est l'aïeul, en costume du XVIIIe siècle. Il arrose, il bénit la bûche avec du vin cuit, et prononce les paroles sacramentelles. Cette formule renferme tout à la fois une prière et de souhaits pour toute la famille, debout devant la table chargée des plats réglementaires. Allegre, allegre, Dieu nous allègre. Calendoven, tout ven ben. Et se nun sian pas me, que nous figuen me. Dieu nous fague la grâce de venir l'an qui vient. Dieu nous tienne en joie, Noël arrive, tout bien arrive. Que Dieu nous fasse la grâce de voir l'année prochaine, et si nous ne sommes pas plus nombreux, que nous ne soyons pas moins. En face, assise, l'aïeul file sa quenouille. Derrière elle, le fermier, aîné des garçons, dit loupe-l'eau, s'appuie sur la cheminée, ayant sa femme vis-à-vis. À côté du pelot, sa jeune sœur, souriante et rêveuse, elle s'entretient avec l'ourafi, valet de ferme. Près de la table, à gauche, l'aînée des filles prépare le repas, tandis qu'au fond, le gardien, armé de son trident, et le berger, avec son chien, se préparent à assister au festin familial. Une jeune enfant écoute religieusement la bénédiction du grand-père. Mistral, quand il fut nommé membre de l'Académie marseillaise, en cette langue provençale si colorée, qui parle si bien, nous a donné dans son discours un tableau pittoresque de cette scène ravissante de la bûche de Noël. Au bon vieux temps, la veille de Noël, après le grand repas de la famille assemblée, quand la braise bénite de la bûche traditionnelle, la bûche d'olivier, blanchissait sous les cendres et que l'aïeul vidait à la tablée le dernier verre de vin cuit, tout à coup, de la rue déjà dans l'ombre et déserte, on entendit monter une voix angélique, chantant par là-bas au loin dans la nuit. Et le poète nous conte alors une légende charmante, celle de la bonne dame de Noël qui s'en va dans les rues, chantant les Noëls de Saint-Bolie à la gloire de Dieu, suivie par tout un cortège de pauvres gens, miséreux des champs et des villes, gueux de campagne, etc., accourus dans la cité en fête. Et vite alors, tandis que la bûche s'éteignait peu à peu, lançant ses dernières étincelles, les braves gens rassemblés pour réveillonner ouvraient leurs fenêtres, et la noble chanteuse leur disait « Braves gens, le bon Dieu est né, n'oubliez pas les pauvres !» Tous descendaient alors avec des corbeilles de gâteaux et de nougat, car on aime fort le nougat dans le midi, et ils donnaient aux pauvres le reste du festin. Comment résister au désir que nous avons depuis longtemps de publier la bûche de Noël de Frédéric Mistral, qui a bien voulu correspondre avec nous et nous donner des renseignements si intéressants sur les coutumes de Noël. Cette description si gracieuse, si poétique, faisait primitivement partie du poème de Mireille. L'auteur a cru devoir la supprimer pour éviter les longueurs. Il faut être bien puissant et bien sûr de soi pour négliger un tel tableau ou le reléguer dans les bas-côtés de son œuvre. Lisons, relisons la traduction de ces beaux vers. Quelle naïveté, quelle beauté simple et pieuse, quelle rusticité pleine de saveur, de plus, quelle noblesse fière. Oui, c'est ainsi que doit être sauvée l'âme d'un peuple et maintenue la haute tradition d'un pays. Chaque stance est soutenue par un souffle divin. Ah, Noël, Noël, où est donc ta douce paix? Où sont les visages riants des petits-enfants et des jeunes filles? Où est la main calleuse et agitée du vieillard qui fait la croix sur le saint repas? Alors le valet qui laboure quitte le sillon de bonheur et servant des bergers des camps diligents. Le corps échappé au dur travail, ils vont à leur maisonnette de pisée avec leurs parents, manger un cœur de céleri et poser gaiement la bûche au feu avec leurs parents. Du four, sur la table de peuplier, déjà le pain de Noël arrive, orné de petits houx, festonné d'enjolivures. Déjà s'allument trois chandelles neuves, clair, sacré, et dans trois blanches écuelles germe le blé nouveau, prémisse des moissons. Un noir et grand poirier sauvage chancelait de vieillesse. L'aîné de la maison vient, le coupe par le pied à grands coups de cognée, l'ébranle et le chargeant sur l'épaule près de la table de Noël, il vient au pied de son aïeul le déposer respectueusement. Le vénérable aïeul, d'aucune manière, ne veut renoncer à ses vieilles modes. Il a retroussé le devant de son ample chapeau et va, en se hâtant, chercher la bouteille. Il a mis sa longue camisole de cadis blanc et sa ceinture et ses braies nuptiales et ses guêtres de peau. Cependant, toute la famille autour de lui joyeusement s'agite. « Eh bien, posons-nous la bûche, enfant !» Allégresse, oui! Et promptement tous lui répondent Allégresse! Le vieillard s'écrie Allégresse, que notre Seigneur nous emplisse d'allégresse! Et si une autre année nous ne sommes pas plus, mon Dieu, ne soyons pas moins! Et remplissant le verre de clarette devant la troupe souriante, il en verse trois fois sur l'arbre fruitier. Le plus jeune prend l'arbre d'un côté, le vieillard de l'autre, et sœurs et frères entre les deux, ils lui font faire ensuite trois fois le tour des lumières et le tour de la maison. Et dans sa joie, le bon aïeul élève en l'air le gobelet de verre. « Au feu, dit-il, feu sacré, fais que nous ayons du beau temps. Bûche bénie, allume le feu. » Aussitôt, prenant le tronc de leurs mains brunes, ils le jettent entier dans la crevasse. Vous verriez alors gâteau à l'huile et escargot dans la aioli, heurté dans ce beau festin vin cuit, nougat d'amande des fruits de la vigne. D'une vertu fatidique, vous verriez luire les trois chandelles. Vous verriez des esprits jaillir du feu touffu, du lumignon. Vous verriez pencher la branche vers celui qui manquera au banquet. Vous verriez la nappe rester blanche sous un charbon ardent et les chats rester muets. La bûche de Noël en Bretagne. En Bretagne, la plus grande fête de l'année était la fête de Noël, et ce que nous, pauvres paysans, nous aimions le plus dans cette fête, c'était la messe de minuit. Maigre plaisir pour vous autres citadins qui aimez vos aises, mais qu'était-ce pour nous, paysans, qu'une nuit blanche? Même quand il fallait cheminer dans la boue et sous la neige, pas un vieillard, pas une femme n'hésitait. On ne connaissait pas encore les parapluies à Saint-Jean-Brévelay, ou du moins on n'y connaissait que le nôtre, qui était un sujet d'étonnement et d'admiration. Les femmes retroussaient leurs jupes avec des épingles, mettaient un mouchoir à carreaux par-dessus leur coiffe, et portaient bravement dans leurs sabots pour se rendre à la paroisse. Oh, il s'agissait bien de dormir. Personne ne l'aurait pu. Le carillon commençait de la veille après l'angélus du soir et recommençait de demi-heure en demi-heure jusqu'à minuit. Et pendant ce temps-là, pour surcroît de béatitude, les chasseurs ne cessaient pas de tirer des coups de fusil en signe d'allégresse. Mon père fournissait la poudre. C'était une détonation universelle. Les petits garçons s'en mêlaient au risque de s'estropier quand ils pouvaient mettre la main sur un fusil ou un pistolet. Le presbytère était à une petite demi-lieue du bourg. Le recteur faisait la cour sur son bidet que le quinquis, le bedeau, tenait par la bride. Une douzaine de paysans l'escortaient en lui tirant des coups de fusil aux oreilles. Cela ne lui faisait pas peur, car c'était un vieux chouan et il avait la mort de plus d'un bleu sur la conscience. Avec cela, bon et compatissant, et le plus pacifique des hommes, depuis qu'il portait la soutane et que le roi était revenu. On faisait ce soir-là de grands préparatifs à la maison Télin-Charles, et le hall loco mesurait le foyer et la porte de la cuisine à l'air important, comme s'il n'en avait pas connu les dimensions depuis bien des années. Il s'agissait d'introduire la bûche de Noël et de la choisir aussi grande que possible. On abattait un gros arbre pour cela, on attelait quatre bœufs, on la traînait jusqu'à Kerjou, c'était le nom de notre maison. On se mettait à 8 ou 10 pour la soulever, pour la porter et pour la placer. On arrivait à grand-peine à la faire tenir au fond de l'âtre. On l'enjolivait avec des guirlandes. On l'assurait avec des troncs de jeunes arbres. on plaçait dessus un gros bouquet de fleurs sauvages, ou pour mieux dire de plantes vivaces. On faisait disparaître la table du milieu, la famille mangeait un morceau sur le pouce. Les murs étaient couverts de nappes et de draps blancs, comme pour la fête de Dieu. On y attachait les dessins de ma sœur Louise et de ma sœur Hermine, la Bonne Vierge, l'Enfant Jésus. Il y avait aussi des inscriptions « Et homo factus est ». On ôtait toutes les chaises pour faire de la place, nos visiteuses n'ayant pas coutume de s'asseoir autrement que sur leurs talons. Il ne restait qu'une chaise pour ma mère et une tante Gabrielle qu'on traitait avec déférence et qui avait 86 ans. C'est celle-là, mes enfants, qui savait des histoires de la terreur. Tout le monde en savait autour de moi, et mon père plus que personne, s'il avait voulu parler. C'était un bleu, et son silence obstiné était peut-être conseillé par la prudence dans un pays où il n'y avait que des chouans. L'encombrement était tel dans la cuisine, et tout le monde voulant se rendre utile et apporter du genêt, des branches de sapin, des branches de houx, et le bruit était si assourdissant à cause des clous qu'on plantait et des casseroles qu'on bousculait, et il venait un tel bruit du dehors, bruit de cloches, de coups de fusil, de chansons, de conversations et de sabots, qu'on se serait cru au moment le plus agité d'une foire. À 11h30, on entendait crier dans la rue « N'outrou personne ! N'outrou personne ! Monsieur le recteur, monsieur le recteur !» On répétait ce cri dans la cuisine, et à l'instant, tous les hommes en sortaient. Il ne restait que les femmes avec la famille. Il se faisait un silence profond. Le recteur arrivait, descendait de son bidet que je tenais par la bride, c'est-à-dire que j'étais censé le tenir, mais on le tenait pour moi. Il n'avait pas besoin d'être tenu, le pauvre animal. À peine descendu, M. Moisan montait les trois marches du perron, se tournait vers la foule découverte, ôtait lui-même son chapeau et disait, après avoir fait le signe de la croix, « Angelus Domini nuntiavit Mariae !» Un millier de voix lui répondaient. La prière finie, il entrait dans la maison, saluait mon père et ma mère avec amitié, M. Ozon, le maire, qui venait d'arriver de Pénic-Pichou, et M. Oyot, le maréchal Ferrand, qui était greffier du juge de paix. M. Ozon, M. Oyot, étaient les plus grands seigneurs du pays. Ils savaient lire. Ils étaient riches, surtout le premier. On offrait au recteur un verre de cidre qu'il refusait toujours. Il partait au bout de quelques minutes, escorté par M. Ozon et M. Oyot, puis aussitôt se disposait à bénir la bûche de Noël. C'était l'affaire de 10 minutes. Mon père et ma mère se tenaient debout à gauche de la cheminée. Les femmes, que leur importance ou leurs relations avec la famille autorisaient à pénétrer dans le sanctuaire, ce qui veut dire ici la cuisine, étaient agenouillées devant le foyer en formant un demi-cercle. Les hommes se tenaient serrés dans le corridor, dont la porte restait ouverte et débordait dans la rue jusqu'au cimetière. De temps en temps, une femme qui avait été retenue par quelques soins à donner aux enfants fendait les rangs qui s'ouvraient devant elle et venait s'agenouiller avec les autres. Tante Gabrielle, revenue de sa mante, ce qui annonçait un grand tralala, était à genoux au milieu, juste en face de la bûche, ayant à côté d'elle un bénitier et une branche de buis, et elle entonnait un cantique que tout le monde répétait en chœur. Vraiment, si j'en avais retenu les paroles, je ne manquerais pas de les consigner ici. Mais je les ai oubliées, je le regrette. Non pas pour vous, qui êtes trop civilisés pour vous plaire à ses souvenirs, mais pour moi. Et après tout, je n'ai que faire de la chanson de Tante Gabriel, puisque je ne sais plus un mot de bas-breton. L'air était monotone et plaintif, comme tout ce que nous chantons chez nous à la veillée. Il y avait pourtant un crescendo au moment où la bénédiction allait commencer, qui me donnait ordinairement la chair de poule. Jules Simon.